Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Le 30 juin 1559, Gabriel de Lorge devenait régicide malgré lui. C'est lui, le comte de Montgomery, qui priva Catherine de Médicis de son époux Henri II. Elle lui vouera d'ailleurs une haine mortelle. Et, dans le même temps, priva Diane de Poitiers de son royal amant. Le 24 août 1988, Montgomery le régicide d'Alain Landurand était publié aux éditions Taillandier et c'est Jean-Jacques Lévesque qui commentait ce livre pour le Figaro. L'histoire n'a retenu de lui qu'une image d'Épinal cruelle et somptueuse à la fois, celle de la mort d'Henri II dont il est responsable, lors du tournoi donné devant l'hôtel des Tournelles, rue Saint-Antoine, pour fêter un double mariage princier. Henri II voulait déployer toute sa force pour briller devant la femme qu'il aimait, Diane de Poitiers, au grand désespoir de celle qui l'adorait, Catherine de Médicis. Gabriel de Montgomery, lieutenant de la garde écossaise, lui, porta un coup fatal. C'est dans un frisson d'or et de riches tentures, l'éclat des armures, le tintamarre des musiques, les rumeurs des foules extasiées par toute cette richesse déployée, que Gabriel de Montgomery entre dans l'histoire, en figure sombre. Et sombre il fut, comme le montre un curieux portrait qui est celui d'un seigneur aux champs, gérant de ses biens. Lui qui fut surtout un foudre de guerre, il passe en Angleterre après la mort d'Henri II, côtoyant la sinistre, avide et fascinante Élisabeth. Il adopte la religion réformée. Désormais, sa route est tracée. Il va alors, ferraillant pour la cause protestante, aux côtés d'un futile Condé, jouant de l'épée, porté aux rapines, assaut violent et viol, semant la terreur sur son passage.
Thank you.
Le 30 juin 1559, lors d'un tournoi, alors qu'il avait jouté à plusieurs reprises, Henri II refusa de reporter au lendemain sa dernière joute contre Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise, et malgré les réticences de ce dernier, lui ordonna de courir contre lui. Montgomery s'exécuta et le blessa mortellement. Le pardon que lui accorda Henri II sur son lit de mort ne changea rien au fait. Jusqu'au dernier de ses jours, Gabriel restait dans l'esprit de tous un régicide. Fuyant en Angleterre, il noua donc une amitié sincère avec Élisabeth Ière et se convertit au calvinisme. Son retour en France marqua son ralliement aux réformés dont il devint l'un des principaux chefs de guerre. Défi permanent pour la monarchie, il était un homme à battre. L'évocation du nom de Montgomery suscite l'épouvante. C'est une sorte de loup-garou, dit-on, d'aimable compagnie pour ses amis, bon époux, attentif à l'avenir de ses enfants et homme de culture. Une de ces figures comme la Renaissance en multiplie, où le raffinement de la culture cohabite singulièrement avec la cruauté la plus radicale, la plus sombre, un goût de sang et de mort. Sa fin est digne de sa vie. Dans Domfront, ultime refuge des protestants insurgés contre le pouvoir royal, et tandis qu'à Vincennes, Charles IX agonise, Montgomery tient tête au milieu d'une poignée de soldats face à l'armée catholique envoyée le quérir. Vêtu comme pour une fête, portant un pourpoint blanc passementé d'argent, il est nu-tête et combat en première ligne une hache à la main, superbe comme un chevalier du Moyen-Âge. Épuisé, écrasé, il est finalement en état d'arrestation et sera amené à Paris. Jugé, condamné à être décapité et son corps mis en 14 quartiers. Au soir de la bataille de Jarnac, Charles IX et sa mère Catherine de Médicis jubilaient. Le prince de Condé était mort et Montgomery le serait aussi. Double réjouissance prématurée, car Gabriel avait en fait été sauvé in extremis par La Rochefoucauld. 3 ans plus tard, il figurait en bonne place sur la liste des Huguenots à massacrer lors de la Saint-Barthélemy. Là aussi, Gabriel ne réchappa du traquenard que d'extrême justesse. Sa bravoure sera sa perte. Il était enfermé dans Domfront où il résistait désespérément au blocus du maréchal de Matignon. Gabriel, ne voulant pas abandonner ses hommes, refusa de suivre Agrippa d'Aubigné, venu l'aider à s'enfuir. Le 26 mai 1574, après 17 jours de siège, Gabriel fut contraint de se rendre. A-t-il vraiment cru que Catherine de Médicis ratifierait les engagements du maréchal de Matignon qui lui avait garanti la vie sauve? Charles IX, qui venait de mourir, avait clairement précisé ses volontés à son égard. Il ne fallait pas qu'on laissât échapper le comte de Montgomery, de peur qu'il ne troublât encore une fois le royaume de France.
Thank you.
Entre 1555 et 1558, parurent les fameuses centuries de Nostradamus. Ceux qui lurent les quatre vers de Michel de Notre-Dame songèrent-ils à les appliquer au roi ? Le lion jeune, le vieux surmontera. En chant bellique, par singulier duel. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera. De classe, une, puis mourir, mort cruelle. Après la blessure et la mort du roi, l'interprétation devenait facile et l'on comprend pourquoi la reine veuve appela Nostradamus à la cour. Mais il y eut d'autres prophéties de même nature. Les deux premiers jours se déroulèrent sans incident. Les quatre tenants du tournoi firent merveille. Ils arboraient selon l'usage les couleurs de leur dame. Guise était incarnat et blanc. Ferrare, jaune et rouge. Nemours, jaune et noir. Et le roi, avec ses couleurs habituelles, blanc et noir, celle de Diane. Ainsi, jusqu'à son dernier jour, le fidèle amant porta-t-il les couleurs de Diane. Nul ne savait que c'était l'ultime hommage qu'il lui rendait. La troisième journée, le 30 juin, fut tout aussi plaisante. Henri, toujours en cotte noire et blanche, montait un superbe cheval, dont le duc de Savoie lui avait fait présent et qui répondait au nom de « Malheureux ». Apercevant son futur beau-frère, il lui dit en riant de bien serrer les genoux, car il l'allait bien ébranler, sans respect d'alliance ni de fraternité. Il manqua de le désarçonner, et sa voix se rétablit de justesse. On mit courtoisement le fait sur le compte de son cheval rebours. Le roi rompit ensuite une lance contre le duc de Guise. Son troisième adversaire fut Gabriel de Montgomery, fils du capitaine des gardes écossais et son lieutenant. C'était un grand et roide jeune homme. Tous deux se choquèrent à outrance. Les lances volèrent en éclats. Il n'y avait ni vainqueur ni vaincu. Le roi voulut prendre sa revanche. Il avait branlé sur sa selle. Montgomery refusa courtoisement. Le roi lui intima alors l'ordre d'entrer en lice. Il ne restait hélas plus au jeune comte qu'à obéir. On ne discutait pas les ordres du maître. Georges de Bordeneuve raconte que la nuit précédente, Catherine avait rêvé que le roi avait un œil crevé, qu'on le relevait couvert de sang. Elle lui envoya le grand écuyer Gouffier, le suppliant de ne pas courir cette lance. Vieilleville joignit ses supplications à celles de la reine et du grand écuyer. « Je jure le Dieu vivant, sire, qu'il y a plus de trois nuits que je ne fais que songer qu'il doit vous arriver quelque malheur aujourd'hui et que ce dernier jour de juin vous est fatal. Vous en ferez comme il vous plaira. » Henri se mit à rire. Il ne croyait pas à la fatalité, ou il s'en moquait. Il fit répondre à la reine qu'il ne courrait qu'une lance. Chose étrange, nulle chronique ne signale l'inquiétude de la duchesse de Valentinois, Elle était pourtant près de la reine, au milieu des dames d'honneur. Sans doute ne croyait-elle pas plus aux prophéties et autres sornettes que son amant. Le rite voulait qu'à leur entrée en lice, les combattants fussent salués par les trompettes et clairons sonnant à tue-tête et étourdissement d'oreilles. La glorieuse fanfare continuait pendant tout le combat. Or, à l'entrée du roi et de Montgomery, trompettes et clairons demeurèrent muets, comme frappés d'un charme maléfique, ce qui, selon le témoignage de Vieilleville, fit avec horreur présager le malheureux désastre qui en advint. Les deux chevaliers s'élancent au galop, les lances se brisent. Le choc est si violent que les chevaux se dressent sur leurs pattes arrière. Montgomery n'a pas eu le temps ou le réflexe de baisser assez vite sa lance. Le tronçon soulève la visière du roi, entre dans l'œil. Henri n'a pas été désarçonné, mais on le voit lâcher la bride, chanceler, étreindre le cou de son cheval, gagner ainsi l'extrémité de la lice. Le grand écuyer et son second arrêtent le cheval. Le roi paraît évanoui. On le descend avec précaution. On lui retire son casque. La cage d'or de Nostradamus. Le visage se couvre de sang. On distingue cependant plusieurs grandes esquilles plantées dans l'œil et dans la tempe. La reine accourt avec les dames d'honneur. Une foule tumultueuse rompt les barrières, s'assemble, on emporte le blessé. Le roi a repris connaissance et on l'entend murmurer « Je suis mort ».
Thank you.
Le comte de Montgomery fut incarcéré à la conciergerie le 16 juin et torturé. Son procès fut instruit avec une telle célérité qu'il ne reste aucune trace de la procédure. Convaincu de crime de lèse-majesté, il fut donc condamné à être décapité et son corps mis en 14 quartiers. En outre, un édit royal condamnait sa famille à être dégradée de noblesse et à avoir ses biens confisqués. Avant de partir pour son supplice, Gabriel refusa de recevoir la foule de théologiens voulant œuvrer pour le salut de son âme et resta inébranlable dans sa foi protestante. Il voulait juste mourir dans la grâce de Dieu. Sur la place de Grève, envahi par une foule venue voir l'exécution du régicide du roi Henri, il croisa le regard d'Agrippa d'Aubigné sur sa monture, à qui il adressa un dernier petit sourire. Il monta à l'échafaud avec un calme inaltérable. Il s'adressa à la foule, mais ses paroles furent vite interrompues par le roulement de tambour. La sentence fut exécutée. Le 28, sa tête, qui avait été exposée sur une pique, fut retirée sur l'ordre de Catherine de Médicis, qui avait, dit-on, assisté à l'exécution du palais de justice. Si tel est le cas, à quelle vengeance enfin assouvie pensait-elle vraiment en regardant ce sinistre spectacle ? Même au-delà de la mort, elle pensait que Montgomery la défiait. Figure d'un sombre théâtre, ce gentilhomme oublié dans les pages les plus cruelles de l'histoire apparaît ici dans la logique de sa vie d'aventurier, se battant pour des idées, mais du mauvais côté. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera pour une autre émission de Bienvenue chez le Roi. Celle-ci était enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.